Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 des podcasts de Wavemind. Aujourd'hui, on va traiter d'un buzzword planétaire qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une troupe d'élite. Je suis avec Quentin, qui est dès à présent nommé la main du roi depuis le dernier épisode.
Bonjour à tous.
Salut Quentin. De Emmanuel, alias Manu, qui est notre paladin du back-end.
Et bonjour.
Et de Sinan, qui est notre Jedi du front-end et du mobile.
Sup. We now have
breaking news. Avant d'attaquer le thème du jour, on va traiter quelques news, comme on le faisait dans nos premiers épisodes. Qu'est-ce que vous nous avez préparé dans vos besaces ? Sinan, qu'est-ce que tu as à me raconter sur les nouveautés ?
Pour tous ceux qui ont suivi les podcasts jusqu'ici, la première fois que j'ai participé à l'émission, je crois que c'était numéro 2, je vous ai parlé de l'espace, du James Webb Telescope. Et aujourd'hui, je reviens dans la même lignée, mais en essayant de relier ça au thème de la journée, qui est l'intelligence artificielle. Et notamment, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle Morpheus.
J'ai jamais entendu.
Stylé comme nom, quand même.
Ouais, c'est pas mal. Hein. Vous avez certainement dû déjà entendre dans Matrix.
Oui, alors, oui. Ouais, voilà. D'où la référence.
Ou alors dans les bras de Morphée, mais je crois pas que ça soit lié.
Je pense pas que c'est le même délire.
Pas sûr.
Du coup, ce IA a été développé aux États-Unis, notamment en Californie, à partir de 2019, et est très très présent et très très utilisé aujourd'hui dans le domaine de l'espace, et notamment avec le James Webb Telescope. Ce qui se passe avec cette intelligence artificielle, c'est que les images qui sont reçues par les scientifiques envoyées par le James Webb Telescope sont analysées tout d'abord par cette intelligence artificielle, pixel par pixel, afin de pouvoir déterminer le type de galaxie qu'il y a dans l'image. Et juste dans l'ordre du juste prix, comme on a l'habitude de faire, environ combien de pixels est-ce que vous imaginez sont envoyés par image du James Webb Telescope ?
Pour une image du James Webb, combien il y a de pixels dans cette
image ? Ouais, est-ce qu'on sait combien d'images on reçoit par jour ?
Alors,
heure,
peut-être
minute.
Tout d'abord, quelles sont les résolutions en pixels des, par exemple, de l'iPhone, du dernier iPhone ?
20 mégapixels ? Ouais, je sais que sur mon téléphone, j'ai un 50, mais c'est beaucoup.
Mégapixels ?
Franchement, aucune
idée. Ouais, 50 mégapixels.
Alors, selon ChatGPT, ouais. C'est 12 mégapixels pour le dernier iPhone.
Ok,
très bien.
Et donc, des approximations pour les images qui sont renvoyées par James Webb ?
Je parie sur un...
C'est pas énorme, énorme, mais c'est un petit peu plus que 12 quand même.
Ouais, parce que du coup,
j'aurais dit 327.
Ouais, j'allais même au-dessus, moi. J'irais aussi 100.
Ok. Bah, actuellement, c'est à 32.
Allez.
Ouais, c'est pas énorme, mais ça fait quand même 32 millions de pixels.
Pour chaque image.
Pour chaque image. Et donc, t'imagines si c'était quelqu'un qui devait analyser chaque pixel pour décerner les différentes galaxies, parce qu'on parle pas de planètes, mais carrément de galaxies,
ouais,
dans ces images, ça prendrait quand même un petit moment.
Tu sais ce que tu fais pendant ton stage, tu vas à la NASA, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, ça c'est le bon stage un peu pourri.
Ouais.
Ouais. T'as
une image, t'en as pour 3 semaines.
Et du coup, cette intelligence artificielle a été entraînée avec des galaxies qui ont été simulées dans des images.
Donc des fausses galaxies ?
Des fausses galaxies, exactement, qui a été aussi entraînée en partie sur des images qui ont été renvoyées par le Hubble, okay, le prédécesseur de James Webb, et qui aide les scientifiques à décerner le type de galaxie qu'il y a dans les différentes images qui sont renvoyées.
Ok, voilà. Excellent.
Donc, petite intelligence artificielle à une utilisation réelle moi je trouvais assez intéressante.
Eh ben, on te remercie pour cette news. Manu, il me semble que tu nous as apporté quelque chose aussi.
Alors, pour le coup, c'est même pas une news liée à l'intelligence artificielle en général. C'est plus un petit fun fact. C'est que Meta, elle a voulu suivre les traces de Twitter et a sorti une façon de se certifier sur les plateformes Facebook et Instagram pour un abonnement. Alors pourquoi ils ont fait ça ? clairement.
Parce que Twitter l'a fait et qu'ils voulaient aussi leur petit logo.
Bah, je pense qu'ils perdaient un petit peu de revenus. Ça allait plus aussi bien qu'avant. Maintenant, quel est l'intérêt de cette certification? Parce que en soi, c'est juste pour avoir un vu. Tu le mets sur ta photo de profil.
Sur Twitter, c'est juste un vu. Hein.
Tu fais un petit Photoshop. Ah, je pense qu'il y a quelques. Alors, à quoi sert cette certification? Donc, le patron de Meta, il nous promet deux choses avec ce fameux vu. Premièrement, une protection contre l'usurpation d'identité. Donc ça, c'est une problématique qui est quand même assez connue, surtout sur Facebook, où il y a eu pas mal de vols de comptes, etc.
Bon, sur Instagram aussi. Hein.
Sur Instagram aussi, c'est vrai. Alors, ça va évidemment pas empêcher l'usurpation en tant que telle, mais ça va certifier la personne et du coup rendre l'accès au compte plus facilement quand la personne aura signalé le problème. Donc ça, c'est le premier point.
C'est un compte, au final, c'est un compte premium, quoi.
c'est une sorte de compte premium. Et le deuxième, bah, comme on pouvait s'y attendre, c'est un boost dans l'algorithme de diffusion des messages pour que la personne ait plus de visibilité, la personne ou d'ailleurs l'entreprise, ait plus de visibilité sur le feed Facebook. À mon tour de faire un petit juste prix.
Ah, j'adore les juste prix.
Combien coûte ce vu, qui est au final quelques pixels pour le coup, on n'est pas sur le nombre de pixels que nous renvoie
James Webb. Ouais.
James Webb.
Je crois que chez Twitter, ils avaient mis un truc à $8 ou $9.
Il me semble que c'était 8. Ouais.
Ah, attention, il ne faut pas confondre avec l'abonnement qui permet de rendre une partie de son compte privé. Là, c'est vraiment pour certifier un compte.
Honnêtement, je pense que Marc, il est pas méga inspiré. Il a regardé Elon, il a fait à 8. Ouais, je vais mettre 8,5 pour okay. Que ça ressemble un peu.
8,5 chez Alain, moi je dis 16.
Toi, tu dis 16.
Je vais aller entre deux, je vais dire 12.
Zéro prise de risque. Du
zéro coup, prise de risque. zéro prise de risque, il va lui donner la bonne réponse d'ailleurs, parce que effectivement, il a le prix à 12. 12 euros, il me semble que c'est en euros que c'était mentionné, par mois. Donc ce qui est vraiment...
Je pense qu'il a un peu des caisses à remplir et puis que ça lui fait pas de mal.
C'est très probable. Je sais pas à quel point cette plus-value est rentable. Faudra voir à quel point c'est boosté. Je sais qu'il y a déjà sur Marketplace, par exemple, la possibilité d'avoir un compte un peu plus boosté pour les offres. À voir si on peut trouver une valeur financière équivalente sur un compte Facebook ou Instagram, je sais pas.
On verra bien. Je pense qu'il y a dans ce genre d'entreprise, il y a toujours des gens qui sont prêts à payer pour avoir le petit truc en plus, pour avoir le petit truc qui va bien. Surtout vu le nombre d'influenceurs qu'on a sur Instagram, ce genre de choses.
On est d'accord. Après, là où ça pourrait être intéressant de voir, c'est le retour sur investissement pour par exemple une entreprise qui veut avoir une visibilité sur Facebook. À quel point cette visibilité supplémentaire lui apporte du revenu indirect en ayant cet abonnement pour un petit vu bleu.
Très bien. Merci Manu pour cette news des réseaux sociaux. Toi qui es un fervu des réseaux sociaux, hein, les gens qui te connaissent se le reconnaîtront.
Effectivement.
Pour ma part, j'ai aussi une petite news à vous partager. Ça va être assez rapide. Je pense que je ne peux pas éviter de parler de notre ami ChatGPT. Qui est absolument sur les bouches de tout le monde depuis quelques mois, au point où même les étudiants des écoles primaires l'utilisent. Donc, comme tout le monde l'utilise, il y a des hackers suisses qui sont dit que pour faciliter un peu leur travail, ils allaient utiliser ChatGPT pour trouver des failles. C'est des gens qui font des bug bounty. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, les bug bounty, c'est trouver des failles dans un système informatique et plus la faille que tu trouves est facile à exploiter, plus tu touches de l'argent en fait.
Ou critique,
ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est tu trouves un bug, tu gagnes de l'argent, plus le bug est gros, plus tu gagnes d'argent. Et en fait, il y a des gens qui étaient en train d'analyser un système X ou Y et qui avaient un peu de la peine à comprendre une implémentation qui a été faite pour un SDK en particulier, et ils se sont dit, au lieu de nous aller lire chaque ligne de code, on va prendre le code, on va le donner à ChatGPT, puis on va lui dire, est-ce qu'il y a une faille là-dedans? Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le code de l'implémentation du SDK, ils l'ont donné à ChatGPT, et ChatGPT, il a dit, potentiellement, il y a un bug ici et là, regarde pour corriger. Ils ont essayé d'exploiter ces failles et en effet, il y avait des failles et ça leur a rapporté 20 000 dollars, autant pour moi. Donc, c'était pas en Suisse, c'était aux États-Unis. Donc, merci ChatGPT pour ces 20 000 dollars pour quelques lignes de travail.
Et pour un abonnement de quoi 30, 30 francs par mois.
Et l'abonnement en Suisse, il est à 20 francs par mois, je crois.
Voilà.
Et encore, tu peux utiliser la version gratuite, le résultat est le même.
Rentabilisé nettement.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin.
On va donc attaquer le thème du jour qui est l'intelligence artificielle. Avant de commencer, c'est un mot qui est assez trendy, qui est un buzzword, on peut le dire, et qui est utilisé par tout le monde dès qu'il y a une condition ou un truc quelque part. Je serais curieux d'avoir votre définition de l'intelligence artificielle, très rapidement, hein, faut pas que ça prenne des plombes, mais que vous me fassiez une petite phrase ou deux sur l'intelligence artificielle pour vous, c'est quoi ? Je vais commencer à ma gauche. Manu.
Alors, je pense qu'on a souvent tendance à confondre intelligence artificielle avec algorithme.
C'est vrai.
Je pense qu'une intelligence artificielle, c'est une logique plus ou moins grande qui simule une réflexion. C'est-à-dire le fait de récupérer une information et de lui apporter une sorte de pensée. Je pense que c'est ça une intelligence artificielle parce qu'elle est censée simuler la réflexion humaine.
D'où le fait intelligence artificielle.
Ouais. Exactement. Là où un algorithme, c'est quelque chose de générique qui va interagir selon des différentes variables, je pense qu'une intelligence artificielle est censée imiter une réflexion un peu plus poussée. Donc voilà là où je mettrais un peu la différence.
Très bien, merci beaucoup. Sinan, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'intelligence artificielle ?
Alors moi, je suis assez d'accord avec mes collègues la réflexion de mes collègues d'avant. La seule chose que j'ajouterais, par contre, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, sans être expert dans le domaine, c'est qu'une intelligence artificielle a aussi besoin d'une notion d'entraînement. On a besoin d'entraîner cette intelligence artificielle à reconnaître et analyser certaines situations et pouvoir répondre correctement à différentes situations. Chose qui le différencie pour moi de nouveau d'un algorithme qui n'a pas cette notion d'entraînement et qui peut fonctionner sans avoir analysé l'expérience du passé, ouais. Etc.
Une notion de contexte, en fait.
C'est ça.
Qu'effectivement, un algorithme ne peut pas tellement prendre en compte alors qu'une intelligence artificielle, elle pourrait, pour le coup, le faire.
Ouais. Moi, de mon côté, moi, je vous pose la question, mais j'ai pas de réponse. Hein. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui, c'est un peu un fourre-tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui est un peu intelligent, qui dit quelque chose, on dit que c'est une intelligence artificielle. Mais on voit beaucoup de mèmes sur Internet qui disent qu'une intelligence artificielle, c'est juste des ifs dans des ifs dans des ifs dans des ifs. Au final, je pense que c'est un peu ça. Là où il y a peut-être une différenciation à faire, c'est sur la notion de réseau de neurones. Donc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Sinan. C'est que potentiellement, on a un apprentissage par lui-même de l'algorithme. Donc il est capable d'évoluer par lui-même, avec soit un apprentissage supervisé, soit avec un apprentissage non supervisé, ou même par un apprentissage par renforcement. Et ça, potentiellement, ça peut être considéré comme de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent « oui, on fait de l'intelligence artificielle », alors qu'au final, c'est simplement des conditions qui sont imbriquées, qui disent « si t'es comme ci, si t'es comme ça, on va te dire ça ». Si je peux comparer avec un des projets qu'on a réalisé, si on prend la Medal Suite, dont on a déjà parlé dans un podcast, je pense très certainement qu'il y a des gens qui diraient « ah, c'est de l'intelligence artificielle », alors que pour moi, c'est simplement un algorithme médical qui est développé et qui a une sortie qui est déterministique. Ça se dit, ça ?
Oui.
Oui. Et en gros, on a une entrée et on sait quelle sortie on va avoir, alors que potentiellement, dans l'intelligence artificielle, on peut avoir des résultats différents avec des entrées similaires.
Oui, clairement, mais la suite, c'est plus un algorithme. C'est un exemple d'algorithme très très complexe, mais qui ne prend pas en compte ni contexte, ni réflexion soi-disant humaine.
C'est ça. Merci Manu pour ta définition. Quentin, est-ce que tu aimerais nous faire une définition de l'intelligence artificielle ?
Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est plus... Je vois plus ça comme un mot un peu commercial. Tu vois un peu toutes les boîtes ou toutes les pubs sur Internet, ils disent « ouais, on fait de l'IA, c'est trop bien. »
C'est un peu comme la blockchain.
Exactement.
Et puis le métavers.
Ah ouais. C'est pour moi plus quelque chose qui est voué à un terme commercial en ce moment, un terme commercial que vendent des entreprises pour dire, bah voilà notre soft, vous allez rentrer vos données, ça va passer par notre intelligence artificielle pour créer quelque chose, planifier vos trucs. Non, c'est un algo. C'est des if et des else, c'est un switch, et puis ça va juste catégoriser vos données.
Quand tu fais un pitch et que tu dis intelligence artificielle, blockchain, et puis métavers...
C'est bon, t'es chaud, là. T'es le roi du monde sur la scène. Tu peux faire un TEDx.
Les investisseurs, ils voient les dollars dans les yeux.
Ouais. C'est ça. Si je prends un comparatif, ChatGPT, pour moi, du coup, c'est vraiment une intelligence artificielle, puisque comme Manu a dit, ça prend en compte le contexte, ce que beaucoup de choses ne font pas, ou ouais. Je ne pense ne font pas. Quand on voit toutes ces pubs de petites entreprises qui font passer des informations par des intelligences artificielles, c'est pour moi vachement plus du commercial qu'autre chose. Ouais. Ça part vraiment, ils n'ont pas développé un réseau de neurones ou quelque chose qui va encore plus loin, qui prend en compte des millions de data, etc., etc. Parce qu'une start-up n'a pas forcément des millions, voire même des milliards de données qui sont nécessaires pour que ça... qu'il y ait au moins une petite base.
Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est les données. C'est-à-dire que pour moi, une intelligence artificielle doit être basée sur des données, alors qu'un algorithme c'est peut ça. Être basé uniquement sur de la logique.
Ou pure, ouais, exactement.
Ok. On va maintenant parler de comment est-ce qu'on utilise réellement et concrètement l'intelligence artificielle dans notre travail de tous les jours. Quentin, toi par exemple, est-ce qu'il y a une IA que tu utilises plus qu'une autre ? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères ? Dis-moi.
Préféré, je crois pas, non. J'ai essayé à l'époque GitHub Copilot quand c'était en bêta et que c'était gratuit, parce qu'après c'est quand même assez vite devenu payant. Ouais. Je sais plus ce que c'était, $12 ou un truc du style. Ou...
Je crois que c'est $20 par personne, si je dis pas de bêtises.
Par équipe, ouais, ok.
En plus de l'abonnement GitHub qui doit être payant.
Ah ouais, sympa. Donc j'ai essayé GitHub un coup, c'était. Ça te sort. Si on compare ChatGPT à GitHub Copilot, par exemple, GitHub Copilot ne prend pas forcément en compte tout ton environnement ou tout le contexte dans lequel tu bosses. Donc en fait, il va peut-être se baser uniquement sur le fichier sur lequel tu es en train de travailler. Mais par exemple, si tu es dans un projet un peu plus gros, on prend un Ruby on Rails avec du MVC au complet, il ne va pas savoir si tu es dans ta vue que voilà, y a ces méthodes disponibles dans le contrôleur ou ces méthodes qui sont disponibles dans le modèle, par exemple.
Est-ce que tu arrives juste à nous donner un peu la promesse de Copilot ? Qu'est-ce qu'il est censé faire, en fait ?
Copilot, GitHub Copilot est censé te générer du code ou des commentaires ou lui poser une problématique et lui il est censé te fournir une fonction ou une méthode qui va te faire résoudre ta problématique fondamentalement. C'est ça le but principal, si je ne me trompe pas, de GitHub Copilot.
En gros, c'est de l'autocomplétion un peu.
C'est de l'autocomplétion plus. Ouais.
Okay.
Exactement.
Ouais, c'est cool.
Et, donc je l'ai essayé, c'était intéressant. Après, je l'avais intégré moi avec VS Code et. Des fois, tu as l'autocomplétion sans forcément vouloir. Et quand tu es à fond dans ton truc, puis que tu vois en fait sur ton IDE que tu as la moitié du reste du code qui s'affiche, mais en fait, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Okay. Ça me déconcentrait un peu, donc pas forcément hyper pratique dans tous les cas. Mais très intéressant, je ne l'ai pas plus utilisé que ça, donc un peu difficile de juger. Autre chose que j'ai essayé, c'était ChatGPT. Alors, tu es obligé de lui donner. C'est mieux si tu donnes un peu de contexte au début, genre, au cas où tu es un dev qui fait ça, ouais. Ou qui fait ce langage, ou qui.
Tu t'en sers pour quoi, toi, ChatGPT ?
Je m'en sers quand j'ai des problématiques à résoudre et il me fait des propositions. Ça me donne en fait des pistes à explorer, genre peut-être cette techno, peut-être cette manière-là de résoudre ce problème ou cet algorithme. Mais le code fondamentalement est pas forcément ouf.
Il n'est pas optimal ou
Il n'est pas optimal comme je l'aime. Il n'est pas forcément optimisé. C'est fait pour que ça fonctionne en suivant les best practices, mis à part ça. Mm-hmm. Mais des fois, il y a des erreurs de pattern, de programmation ou des choses qui ne doivent plus être faites, qui sont dépréciées, mais qui a toujours pu pomper sur Internet, j'imagine. Ouais. Donc, c'est toujours à prendre à des pincettes. Mais par contre, quand tu as une vraie problématique algorithmique, ça peut t'aider à te filer des pistes. Ça, par contre, ça me file des coups.
Okay. Ouais.
J'ai un exemple, typiquement, je devais faire du plot d'image et... l'upload de PDF, pardon. Ruby on Rails, toujours. Okay. Je devais uploader un PDF et je devais dans Rails ensuite extraire chacune des pages PDF et faire des thumbnails pour afficher sur la page et ajouter un filigrane. J'ai galéré parce que du coup je me suis dit ok, comment je vais faire ça? Et du coup j'ai juste envoyé à ChatGPT, j'aimerais faire ça. Et il m'a juste dirigé sur une ou deux gemmes et une ou deux peut-être solutions plausibles. Et après du coup j'ai fouillé. Mais fondamentalement le code qu'il m'avait fourni était faux.
Okay.
Donc voilà, ça permet en tout cas, moi, de me donner des pistes.
Excellent. Sinan, toi, ton expérience avec l'IA dans ton travail de tous les jours, ça se passe comment ?
Alors, comme Quentin, pour moi, ça a commencé principalement avec GitHub Copilot. C'était assez rigolo parce que je l'avais installé sur mon VS Code et puis quand on donnait des cours, ouais. on posait des questions
aux étudiants,
ben, tout d'un coup, tu avais le code qui apparaissait et ça flinguait toute la question.
Ouais, ouais.
Mais du coup, pour moi, c'était assez intéressant d'utiliser GitHub Copilot. Et comme disait Quentin, ça s'est assez vite arrêté à sortir juste une fonction ou une méthode qui fait ce que j'ai envie que ça fasse. Peut-être qu'on ne l'a pas poussé jusqu'au bout.
Ouais,
sûrement. Oui.
Certainement. Mais en tout cas, mon utilisation de Copilot s'est arrêtée là. Et de nouveau, comme Quentin, on a vite basculé sur ChatGPT quand il y a tout le hype qui a pris. Et je trouve que c'est plus puissant que Copilot. Justement, tu as toute cette partie contexte. Et ce que moi, je trouve intéressant, c'est que on lui pose des questions et il sort non seulement juste la fonction ou une base de fonctions qu'on peut utiliser, mais aussi toutes les composantes, toutes les choses qui doivent aller autour pour que cette fonction elle fasse ce qu'elle a besoin de faire. Donc il n'y a pas juste une notion de créer une méthode pour répondre à une problématique, mais carrément faire presque une sorte de mini-application qui répond aux besoins. Certes, il faut reprendre le code, certainement le corriger, l'adapter à ce qu'on essaie de faire, mais en tout cas pour générer une piste,
ouais.
c'est moi je trouve c'est top. Et je me retrouve aujourd'hui à poser les questions que je posais à Google à l'époque.
Pour tomber sur un truc Stack Overflow.
Voilà, sur ChatGPT, parce que du coup, ça me donne directement une piste sans devoir faire.
De recherche, ouvrir quatre liens et
voilà,
tout. Ouais. Je pense sincèrement que le trafic sur Stack Overflow a dû drastiquement baisser depuis la sortie de ChatGPT.
Ouais.
Stack Overflow est devenu pour moi, en tout cas, presque. Le
dernier
deuxième
recours.
Option après, si ChatGPT n'arrive pas à me générer ce que je veux.
Ou si ChatGPT est down.
Ou si ChatGPT est down, à ce moment-là, je passe sur Stack Overflow.
Ok. Ouais.
Si ChatGPT n'a pas lu Stack Overflow, pour donner sa réponse.
Ouais. Ouais. Je reviens un peu sur ce que vous disiez. Là où je pense qu'il y a la différence principale entre ChatGPT et Copilot, c'est que Copilot, il a été entraîné. Juste, je me permets de dire juste alors que c'est énorme, sur tous les repos publics de GitHub. Mm. Pour le coup, je pense que Copilot est capable de fournir un code qui est potentiellement de meilleure qualité. Ouais. Alors, je ne dis pas que tous les repos sur GitHub sont de bonne qualité, hein, mais je pense qu'il y a quand même une majorité de code open source qui est écrit en suivant des normes. Et pour le coup, je pense que Copilot est capable de générer du meilleur code. Par contre, à l'inverse, ChatGPT, lui, il s'est entraîné sur le web en entier, ou presque. Et du coup, je pense qu'il a plus facilement des alternatives à te proposer pour te dire, si ça ne marche pas, c'est plutôt ça, parce qu'il connaît tel ou tel plugin.
Librairie ou plugin.
Il sait que c'est plus ou moins lié avec ça. Et il est capable de te donner un peu un contexte autour de ce qui se passe et de te proposer justement des alternatives ou d'autres choses ou ce genre de solutions. Manu, toi, par rapport à ton travail de paladin du back-end, est-ce que tu utilises l'IA ou est-ce que toi, tu es un vrai de vrai et tu fais tout sur le Notepad++
?, J'ai testé Copilot puisque j'en avais parlé à ma première présence, je crois.
Ouais, je crois que c'est l'épisode 2 aussi.
On avait parlé de Copilot. Le problème reste le même pour moi, c'est que Copilot ne prend pas en compte le contexte et c'est son plus gros défaut. C'est pourquoi j'ai vite arrêter d'utiliser pour ma part. Ça me faisait pas gagner tellement plus de temps, donc je m'en suis pas servi pour le boulot. Quand ChatGPT est sorti, c'est marrant parce que vous avez vite eu le réflexe de l'adapter pour votre job, et clairement ça vous a donné des pistes et j'ai trouvé ça intéressant. Mais moi je trouve que cet outil, il est juste monstrueux. Il est effrayant au possible, il sait tout.
Monstrueux dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?
Les deux. Ça fait un peu peur, parce que, comme disait Sinan, tu peux demander ce que tu aurais demandé à Google normalement à ChatGPT. C'est impossible qu'il n'ait pas la réponse.
Alors,
il faut vraiment, vraiment pousser loin pour que ChatGPT n'ait pas la réponse.
De ce que je sais, ChatGPT a été pensé pour qu'il te donne toujours une réponse. Dans le sens, c'est un peu quand t'es en primaire, le beau parleur, tu sais.
Ouais.
C'est le mec qui parle même s'il sait pas trop.
Même s'il sait pas trop.
Et en fait, il dit des trucs avec beaucoup d'assurance, et puis toi, tu dis ouais, c'est pas mal. Et en fait, c'est pour ça que ChatGPT, pour moi, il va juste. Il te donne une réponse. Il sait pas si c'est forcément juste, si c'est forcément valide, mais il te donne une réponse, il te dit bah, c'est plus ou moins comme ça. Et puis.
Débrouille-toi avec ce que je dis.
Débrouille-toi, c'est ça, débrouille-toi. Mais en gros, il y a toujours un peu des warnings à la fin des messages pour dire bah, fais plutôt comme ça, mais dans le doute, vérifie quand même, parce qu'il faut demander à des spécialistes et tout et tout. Donc il se dédouane un peu, mais il va toujours te donner une réponse, peu importe le sujet.
Bah, pour reprendre ton analogie, je vous dirais quand même que c'est déjà un adulte bien mature, parce que je pense que pour réussir à le coller, il faut déjà être un minimum, entre guillemets, expert dans un domaine. Parce que si tu fais des recherches assez générales, tu vas pas réussir à le coller. Moi, je me suis amusé un petit peu. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Tu peux lui demander comment build ton champion sur un tel jeu, comment battre un boss que tu n'as jamais réussi à battre. Il va quand même te sortir des réponses. Tu peux lui demander si tu as envie que ton chien il te ramène d'un bâton. Tu lui demandes comment je suis censé faire. Si tu as quelques soucis sociaux, tu peux lui demander comment te faire des potes à l'école primaire. Il va forcément te donner une réponse et jamais à côté de la plaque. Alors, est-ce que ce sera la plus précise? Évidemment pas. Ça reste un bot, mais je trouve ça effrayant, le nombre d'informations qu'il détient. Son plus gros défaut étant sa limite temporelle, puisque tout ce qui dépasse... Alors, il m'avait répondu septembre 2021.
Ouais.
Tout ce qui est après...
Est-ce que tu lui as demandé la question à lui-même?
Non, il me l'a précisé, parce que j'ai fait exprès de parler d'un sujet qui était récent, et il a dit... justement, comme tu disais, il fait certains warnings, il dit qu'il faut se rappeler que je n'ai pas d'informations qui datent d'après septembre 2021.
Okay, ouais.
Donc c'est sa limite. Mais effectivement, je pense que si tu lui demandes, il saura te dire quelle est sa propre limite.
Ouais. C'est un outil qui est absolument monstrueux, et tu peux un peu l'orienter pour dire ben, comporte-toi plutôt comme ci ou comporte-toi plutôt comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont amusés à le programmer, si on veut dire, pour que ça soit... Comme les personnages non-joueurs des jeux vidéo, c'est-à-dire que tu peux lui parler et il va te répondre comme si c'était une autre personne. Donc tu peux lui dire, tu es un personnage qui est propriétaire d'un magasin dans un village qui s'appelle comme si, tu vends tel ou tel objet, et tu peux lui dire bah, quel objet tu vends. Il va dire, ah bah je vends des tuniques, des lance-pierres, ce genre de choses, et tu peux communiquer avec lui comme si c'était une personne...
Et là, on parle d'intelligence artificielle, parce que là, il prend complètement en compte le contexte, et il essaye de réfléchir comme un humain. Du mieux qu'il peut, et moi je trouve ça absolument incroyable. Et oui, effectivement, un petit peu effrayant quand même.
C'est complètement effrayant. Je suis.
Imaginez, vous avez maintenant un robot qui sort et qui se dit, à chaque fois qu'il rencontre un problème parce qu'il est pas. Il connaît pas encore cette problématique, il demande à ChatGPT qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, puis ChatGPT va lui répondre. Et ça sera pas forcément toujours adéquat, mais ce sera pas à côté de la plaque non plus, quoi.
Ouais.
Et je trouve ça impressionnant. Maintenant, c'est clair que pour qu'il soit à jour, bah, ça demanderait un
nombre c'est un travail de requêtes. Colossal.
Mais c'est surtout d'un point de vue nombre de requêtes, d'un point de vue...
Bah, d'un point de vue temps processeur, parce que s'il faut être à jour, il faut qu'il fasse des... il faut qu'il les travaille, ces données, il faut qu'il les apprenne.
Et d'un point de vue écologie, c'est pas terrible.
Alors, d'un point de vue écologie, c'est monstrueux. Ouais.
Ouais, j'ai vu un article l'autre jour où il disait que quand Google ou la Microsoft l'ont intégré, leur coût allait augmenter de manière monstrueuse pour leur serveur, parce que du coup ça leur demande tellement plus de calculs que leur moteur de recherche actuel qu'ils vont devoir revoir comment ils peuvent faire ça ou rouvrir des data centers rien que pour des systèmes de recherche. Donc
c'est insane.
Ça va coûter cher à la big tech. Bon, ils ont la marge encore, mais
si je dis pas de bêtises, il y a des prévisions pour 2030 que 15 ou 20% de l'énergie mondiale consommée soit
pour l'IA.
Non, pas pour l'IA, pour tout ce qui est serveur IT.
Ouais, l'information
et l'autre. Ouais, c'est ça. Pour tout ce qui est hébergement de serveurs de manière générale, que ce soit AWS ou autre. Donc 15 à 20% de l'énergie mondiale, c'est des serveurs pour stocker des données ou pour faire des calculs.
Bah, ça vaut la peine d'aller au boulot en vélo. Hein.
Franchement, le chauffage, il n'y aura plus de chauffage à distance, on sera tous plugués sur des.
Chauffez-vous à 19 et puis venez au travail en vélo.
Ouais, c'est ça
qui va.
Ou on va devoir faire du chauffage à distance avec des data centers. Bon, on aura tous chaud pour le coup.
Ah bah ouais, ça c'est clair. Je vous remercie pour vos réponses. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche l'intelligence artificielle de dominer le monde demain?
Le coût.
Le coût de quoi?
Ça va leur coûter les yeux de la tête à à faire fonctionner tout ça, je pense, déjà.
Beaucoup trop de requêtes pour rester à jour.
Ouais, donc je pense que le jour où... Enfin, il va falloir une infra déjà vachement... Elle est déjà bien présente, hein, ouais. Mais elle est sur quelques systèmes. Il y a DALL-E, ChatGPT, GitHub Copilot aussi sur leur serveur. J'imagine que je pense des gouvernements ont aussi fait des choses de leur côté, à mon avis. Mais c'est que ça demande énormément de ressources.
Ouais.
Du coup, de place aussi physiquement. Donc, il faut aussi qu'ils fassent des data centers et autres pour stocker tout ça. Donc, je pense peut-être ça, c'est déjà un frein. On dit vous déjà juste architecture. Et puis, après, je pense que ça dépend où est-ce qu'on veut aller avec l'IA. Parce qu'il y a plein de gens qui mettent un peu des warnings. Ah, ça, c'est pas bien. Ou ça, c'est bien. Ou comment est-ce qu'on scope l'interaction qu'on peut avoir et ce qu'elle peut nous renvoyer. Donc, franchement, ça m'étonnerait pas de voir d'ici 5 ans des lois qui régissent un peu juste au moins comment une IA doit ou ne doit pas répondre ou les limites qu'elle doit s'accorder.
Un peu les règles de base dans iRobot, c'est ça, non?
Ouais, c'est ça, exactement.
Il faut aussi une chaîne de responsabilité sur une IA par rapport à ceux qui l'ont créée.
Ouais.
On parle par exemple des IA qui ont été mis en ligne sur Twitter, qui sont devenus antisémites au bout de quelques minutes.
Ah, c'était les chatbots, non?
C'était des chatbots.
Ça reste de l'IA, mais bon.
C'était de l'IA qui était mis en ligne et que, vu qu'il prend en compte le contexte, des.
Et que Twitter est un enfer sur Terre.
Mais pas forcément, parce que c'était des internautes qui ont poussé le chat à l'advenir.
Ah, okay, ouais.
Mais peut-être que c'est faisable avec ChatGPT aussi, on ne sait pas.
Ouais.
Peut-être.
En tout cas, être tenu responsable pour ce que peut produire une IA, je pense que ça peut être aussi régulé. Moi, je pense que ce qui retient actuellement l'IA d'aller plus loin, c'est qu'elle a besoin de données et elle a besoin de contexte.
Ouais.
Et ça, elle ne peut pas le créer d'elle-même pour le moment.
Là, je te rejoins complètement. Pour moi, un des plus gros freins, et ça, c'est... Bon, des données sur le web, il y en a. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas classifiées.
Structurées ou classifiées.
Elles ne sont pas structurées. Donc, ChatGPT, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu tout lu, il a un peu adapté, il a mis dans des clusters, il a fait ça, c'est plutôt de la cuisine, ça, c'est plutôt du code, et puis ça, c'est de l'histoire. Mais...
Et encore, je pense que ça a été aidé. Je pense qu'il y a eu quelques redirections pour affiner la chose. Parce que...
Complètement. Mais si tu veux faire une IA qui soit bien entraînée, tu peux faire de l'apprentissage non supervisé, mais tu ne sais pas vraiment où est-ce que ça va te mener. Mm-hmm. Et dans tous les cas, il faut beaucoup de données. Et si tu veux faire une IA qui soit spécialisée dans un domaine, il te faut énormément de données dans ce domaine. Il faut qu'elle soit classifiée et il faut qu'elle soit de qualité. Et pour moi, je pense que c'est un des plus gros freins aujourd'hui pour pouvoir... pour que l'IA contrôle le monde, quoi.
Mmh. Puis, comme on disait, les coûts, effectivement.
Ouais. Alors, de manière générale, les coûts, peu importe le coût que ce soit, que ce soit le coût d'hébergement, de stockage, de...
CO2 énergétique, ça doit être monstrueux, je pense.
De consommation de processeurs, ça, c'est un truc qui est pour l'instant, même si les coûts sont énormes, ils sont plus ou moins gérés, mais il y a bien un jour où les gens vont dire, faudrait peut-être arrêter, non?
Ouais, c'est peut-être un peu abusé, là.
Je pense que ça va nous tomber dessus. Ouais. Mais après, je pense que si du coup ça arrive, ChatGPT ou autre, arrive à structurer autant ces données, je pense que du coup, si tu arrives à développer une IA précise par domaine, et qui peut aider scientifique, médical ou autre, il y en a des qui existent déjà, mais je ne saurais pas dire si c'est aussi puissant que ChatGPT, mais... Là, je pense qu'on pourrait avoir des innovations, que ce soit en termes de recherche, matériaux ou médical ou autre, qui pourraient vraiment faire juste des avancées, des petites avancées nécessaires pour améliorer encore certaines choses, quitte même à que les IA s'améliorent entre elles. Après, on part dans un autre délire, mais...
Ouais.
Ce serait marrant de savoir si ChatGPT pose des questions à ChatGPT pour répondre à lui-même.
Mais même dans un contexte comme ça, je pense que l'IA reste un outil et non... remplace celui qui...
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
Et en soi, je pense que c'est une bonne chose, déjà, je tiens à dire.
Que ça reste un support.
Que ça reste un outil et non un remplaçant.
Déjà, ça fait que vous avez gardé vos boulots, ce qui est pas mal.
Quitte à le tien aussi.
Ouais, le mien aussi.
Fondamentalement, le tien, il dégage.
C'est ça, parce que j'ai pas encore préparé mon CV pour Burger King. Mais je pense qu'on est loin que le... Pour que l'AI remplace celui qui l'utilise en réalité.
Ouais. J'aimerais juste avoir votre point de vue sur... Là, on a parlé principalement des intelligences artificielles qui génèrent du texte. Qu'est-ce que vous pensez des intelligences artificielles qui génèrent des sons ou des images? Est-ce que selon vous, ça pourrait remplacer des artistes ou que ce soit des gens qui font des illustrations, de la musique et autres.
En termes de musique, alors je vais déjà parler au niveau de la musique. Je pense qu'un AI ne pourra jamais imiter une touche artistique d'une personne, une empreinte artistique. Donc j'ose espérer peut-être un peu naïvement que non. C'est vrai que ça me ferait un peu mal au cœur. Mais en soi, non. Non, ça fait... En réalité, plus je réfléchis, plus je me sens naïf sur ce coup, parce que rien ne l'empêche d'imiter une empreinte artistique. Donc, ouais, ça pourrait.
Je pense aussi, ouais. Je pense que, effectivement, tu as quand même un petit peu plus de touches humaines, un petit peu plus de créativité qui rentre dans l'artistique, dans la musique, etc. Mmh. Mais avec peut-être assez d'entraînement, assez de contexte, tu arriverais à faire réfléchir un IA pour, ressentir ça de manière peut-être potentiellement... artificiel et puis ouais, sortir ce genre de choses aussi.
Je sais que les IA comme DALL-E ou comme Midjourney, qui sont justement des générateurs d'images, ils ont un peu pompé toutes les images qu'ils ont trouvées, sauf qu'il y a plein d'images qui sont réalisées par des artistes, et les artistes ont dit, en fait, c'est mon image, du coup, tu peux pas. Donc, on revient un peu sur le problème de données, c'est-à-dire que si...
Droit à l'image, ouais.
Le problème, c'est qu'il y a des droits d'auteur, donc tu peux pas commencer à pomper les images de tout le monde, et puis après générer des trucs qui sont... basé sur leur style. Mm-hmm. Donc si tous les artistes décident de en fait c'est mon image donc t'as pas le droit d'utiliser, mm-hmm. on retombe sur le problème de données, c'est que une intelligence artificielle qui génère de l'image mais qui a pas d'image pour s'entraîner, elle va générer rien.
Du blanc. Du paint.
Qu'est-ce qui est disponible, c'est-à-dire pas terrible.
C'est ça.
Un canevas en blanc.
Un canevas en blanc, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. C'est vrai. Mais non, après, je pense générer, ça arrive. Après, ça va pas... ça va manquer ce côté renouveau de musique où ça va pas créer des nouveaux types de musique ou des nouveaux types d'images. Si ça se base que sur de l'existant, ça va peut-être faire des variantes, mais je pense pas que ça va créer un nouveau style.
Ça va pas innover. Autre.
Ça va pas ça va pas innover.
Okay.
Peut-être de nouveau ma naïveté, mais l'humain est quand même normalement un peu mieux foutu qu'une IA, j'espère.
Pour l'instant,
en tout cas. pour créer des choses qui n'existent pas, qu'une IA pour moi n'est pas capable, censée pouvoir.
Moi je vous propose de réécouter ce podcast dans 10 ans et réagir à ce qu'on a dit et à quel point on est
on fera écouter ce podcast à une IA pour savoir ce qu'elle en pense.
C'est ça. On sera tous chez Burger King, vous savez.
C'est ça.
Moi je vais aller chez Five Guys. Je
pense, notre boss sera une IA.
Trop bien. Ouais, ok, je vais chez Five Guys.
Ouais. Mais au final, je pense que les images, c'est la même chose que le code que nous génère ChatGPT. C'est-à-dire que c'est bien, ça nous inspire, ça nous donne des idées, ça nous donne des pistes. Mais derrière, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne ces données, qui les assemble et qui fasse quelque chose qui soit irréel.
Entre autres, notre cerveau. Ouais.
Notre cerveau, oui. Donc, j'espère que, aussi naïvement, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, on verra dans 10 ans, quand on va réécouter ce podcast, on dira on était bien naïf ou alors on avait bien raison.
Franchement, ça serait drôle.
Ça serait très, très drôle.
Très, très drôle.
Je vais mettre une note dans mon rappel, dans mon calendrier.
Ah, dans 10 ans.
Si on est encore là. Peut-être qu'elle aura tout fait péter.
Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean?
Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule.
Ça nous fait une très belle transition de parler dans 10 ans. Je vais, comme d'habitude, vous poser une question. Enfin, je vais vous demander comment est-ce que vous imaginez que les IA vont changer dans ces 10 prochaines années. Est-ce que c'est un truc qui est parti pour rester pendant 5 ans, ou est-ce que c'est une bulle qui va éclater et puis dans 2 ans, l'IA, on n'en parle plus parce qu'au final, on se rend compte que ça sert à rien. Comment vous imaginez ça?
Moi, je vois déjà beaucoup, beaucoup de feed qui essayent d'utiliser créativement l'IA. Donc effectivement, il y a par exemple des jeux vidéo qui essaient de créer des personnages selon un certain contexte grâce à une IA, des recettes de cuisine, plein de choses, de créer du contenu. Je pense que ça peut devenir encore plus traîné que ça l'est maintenant, parce qu'actuellement c'est encore un petit peu de côté. Moi, je pense que ça peut faire partie un peu de la création de contenu sur le web, donc ça peut être vachement intéressant. Il faut juste contrôler que ça aille pas trop loin dans l'intelligence. faut pas que ce soit trop intelligent, en fait. Ça, c'est, moi, c'est ma plus grande crainte, c'est qu'il faut pas non plus aller trop loin.
Ouais. Après, il faudra être capable de définir qu'est-ce que c'est trop loin.
Ouais. Alors ça, je passe mon tour.
On a assez de films qui nous donnent une petite image de qu'est-ce que c'est trop loin.
Mais ouais, je pense que ça peut clairement faire partie de un peu notre quotidien, mais encore une fois, en termes d'outils et pas plus.
Sinan, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, pour moi, ça dépend de notre adaptabilité aussi, dans le sens où au quotidien, nous, tant que développeurs, on l'utilise tant qu'outil. Moi, perso, j'ai de plus en plus d'affinité avec parce que ça simplifie ma vie, ça simplifie.
Tu lui dis bonne nuit avant d'aller te coucher.
Exactement.
Ou...
Il va échanger. Je lui ai même dit qu'il était top, franchement.
Il va échanger son compte Netflix contre un compte ChatGPT.
C'est ça. Et nous, on l'utilise, nous, on est content avec. Ça nous aide. Dans le cas opposé, je discutais avec un ami qui est prof, où eux, ils ont un petit peu plus de pushback envers les outils comme ChatGPT, parce qu'ils se retrouvent dans des situations où les étudiants l'utilisent également comme outil, mais à des fins qui ne sont peut-être pas comme les nôtres, mais plus pour ne pas forcément réfléchir aux tâches qu'ils doivent faire, aux rapports qu'ils doivent écrire, et puis qu'ils laissent ChatGPT générer du texte pour eux. Donc, nous, tant que développeurs, on s'adapte, on l'absorbe, on l'adore. De l'autre côté, tu as des profs, tu as d'autres métiers qui vont avoir un petit peu plus de difficultés à l'adopter. Donc ouais. Ça dépend, pour moi, ça dépend de l'adaptabilité de nos métiers pour voir si c'est quelque chose qui va se développer de manière générale, qui va se développer du côté de l'informatique uniquement parce que c'est super utile. Puis voilà, c'est, pour moi, c'est ça. C'est aussi notre manière d'aborder la chose.
Moi, j'ai une grosse crainte par rapport à ça, c'est que l'IA, elle est très efficace pour générer du contenu. Et le web, c'est principalement du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que si on veut un bon référencement, il faut avoir du contenu régulier, il faut avoir du contenu de qualité, il faut pouvoir caser tel ou tel mot-clé à l'intérieur de notre texte. Ce qui fait que ça devient très, très facile de générer du contenu. Oui. Et j'ai un peu peur que aujourd'hui, on dit le contenu, c'est de l'or sur le net. Plus tu as de contenu, plus c'est bien. J'ai un peu peur que ça disparaisse parce que maintenant, générer du contenu, c'est devenu tellement simple que tout le monde va le faire. Et je pense que du coup, le contenu va perdre sa valeur. Parce qu'avant, faire du bon contenu, il fallait quand même le rédiger, il fallait réfléchir un peu. Si tu fais.
Par exemple, tes ressources quand même, ou au moins où tu avais réfléchi, poser des trucs.
Ouais. Si tu fais une vidéo, il faut un peu réfléchir à ton script. Si tu fais un podcast, il faut faire un peu la conduite, savoir quelles sont les questions que tu vas poser, dans quel sens tu vas les faire. Mais aujourd'hui, ben, tu demandes à une IA, tu dis fais-moi une vidéo YouTube où on fait tel ou tel concept, ou bien donne-moi des idées de concept pour des vidéos YouTube. Ben, tu as une bonne moitié du travail qui est fait. Après, ben, tu prends ton matos, tu prends tes caméras, tu filmes et tu balances. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont être capables de faire beaucoup plus de contenu et j'ai peur que ben, trop de contenu tue le contenu.
Ou du contenu, mais du contenu pourri.
C'est ça.
C'est un peu le risque aussi, hein, fondamentalement. Parce que générer du contenu, on peut. Après, de nouveau, ça dépend si c'est des guidelines qui disent un script ou des mock-up, etc. Après, il faut quand même le réaliser. Si la réalisation n'est pas bonne sur la fin, ça reste du contenu de mauvaise qualité, même si le pitch était bon, peut-être.
Ouais.
Fondamentalement. Je pense que ça dépend de nouveau... Il y a encore ce facteur humain qui rentre suffisamment en ligne de compte, je pense, pour un peu filtrer. Mais comme tu dis, peut-être qu'on va être inondé de contenu pourri.
Quels sont les métiers, quelles sont les activités que l'IA ne peut pas faire, qui définira justement les limites, et s'il y a justement ce genre de choses que l'IA ne peut pas faire.
Moi, j'ai entendu un mec qui a dit le boulot le plus safe actuellement, c'est coiffeur. Il y a peu de chances qu'une IA prenne le travail de coiffeur, parce qu'il y a quand même une sensibilité au niveau des cheveux et un coup de main qui est quand même assez... unique pour l'homme, et donc il a dit que le futur, c'est les coiffeurs. Voilà.
Trop bien. Je
crois que moi, on va se reconvertir.
Ouais, je crois que je vais faire ça. Ou élever des chèvres.
Oh, des lamas.
Peut-être même ça, tu peux le faire avec de l'IA.
Élever des chèvres.
Ouais.
Non, cultiver des champs avec des drones et tout, ça tu fais. Ça. Mais tondre ton mouton et faire ton truc.
Tu vas faire un GPS pour mouton, pour les bergers.
Manu nous a dit tout à l'heure qu'il lui a demandé comment élever son chien, donc a priori, à l'élevage, il en est capable.
Ouais, peut-être.
Après, bon, il ressent ce qu'il a appris d'Internet.
C'est ça.
Il faut qu'il concrétise, après, il faut qu'il prenne des décisions.
Je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, encore, enfin toutes quoi, cherchez, vous devriez nous trouver. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et aussi sur notre site internet waveman.ch. Cordialement, bisous.